Vous êtes sur RTL.
Vous tentez.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h21, bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le directeur du département Opinion à l'IFOP et vous êtes l'auteur aussi de l'Archipel français aux éditions du Seuil. Alors on va se projeter dans cet archipel. On va revenir aussi quelques instants sur les résultats des élections, mais pour essayer de voir aussi ce qui se prépare dans notre pays sur le plan politique. D'abord un premier constat, Jérôme Fourquet. Si le duel La République en marche, Rassemblement national était prévisible et prévu dans les sondages, la participation, l'effondrement des Républicains et le très bon score de Yannick Jadot nous ont tous pris de court. Que s'est-il passé ?
Alors effectivement, le sondage c'est toujours une photographie à un instant donné et apparemment il s'est passé des choses dans la dernière ligne droite. D'abord un sursaut de participation. Alors on avait vu dans les enquêtes qu'en dépit d'une campagne assez courte et assez molle, on va le dire comme ça, eh bien l'intérêt pour le scrutin avait progressé. Manifestement, il y a eu un petit rush vers vers l'isoloir dans les dernières 24 ou 48 heures.
Donc ça se joue vraiment dans les dernières heures avant le scrutin.
Alors notamment dans des scrutins comme les européennes, où on a quand même, il faut le rappeler, une abstention qui est près de 50%. Mmh. Et donc chaque point de participation gagné va vous faire bouger l'état de la photographie. Sur une présidentielle, quand vous avez 80% de votants, les choses sont beaucoup plus difficiles à faire bouger. Par exemple, un point pour une élection présidentielle, c'est 350 000 électeurs. Oui. Là, c'est 200 000. Donc, les choses bougent beaucoup plus. Et manifestement, il y a eu une concrétisation de cette prise de conscience environnementale qu'on voyait dans d'autres enquêtes, mais qui ne se traduisait pas dans les intentions de vote. Et ça s'est traduit dans les urnes par une poussée en faveur des écologistes.
Mais comment expliquez-vous, on va dire, cet intérêt de dernière minute pour l'élection en tant que telle ? Vous nous rappelez, et vous avez tout à fait raison, qu'il reste quand même 50% de gens qui ne votent pas, mais voilà, la poussée, on l'a pas vu arriver. On a perçu des enjeux, on a fini par s'intéresser, chacun a voulu défendre peut-être sa famille, je sais pas.
Effectivement, en partie cela, parce que il y a eu ensuite des conjectures en disant la hausse de la participation va profiter au Rassemblement National ou à La République En Marche. Et manifestement, c'est plutôt les écologistes qui en ont bénéficié. On rappellera qu'en 2009, quand Daniel Cohn-Bendit avait été tête de liste, il y avait eu aussi une surprise en faveur des écologistes. Ils avaient talonné le Parti Socialiste, ils avaient fait 16%, donc on est à peu près dans le même schéma. Et donc ces européennes donnent toujours du fil à retordre et réservent à chaque fois des surprises.
Alors je vais vous dire, c'est rassurant. Ouais. D'une certaine façon, ça veut dire qu'un, il y a encore une curiosité à avoir, que la vie politique réserve des surprises et qu'on ne peut pas tout prévoir, quel que soit le talent ou le sérieux de ceux qui le font. Je me souviens vendredi, à deux jours du vote, que 70% des 18-34 ans comptaient bouter le vote. Est-ce que là aussi on s'est trompé ?
Alors ils sont à peu près dans ces eaux-là, être restés à la maison. C'est la tranche d'âge qui a le moins voté. Mais élément intéressant, parmi ceux qui ont fait l'effort d'aller voter chez ces jeunes, c'est la liste de Yannick Jadot qui arrive en tête avec 24% des voix.
On pouvait s'y attendre, c'est une surprise. Et alors, on parle des 18-34, mais aussi des 18-24 parfois. Et est-ce qu'il faut faire une différenciation entre les jeunes et les très jeunes ?
Alors, c'est assez proche. Hein, les 18-24 s'abstiennent encore un peu plus que les 25-34 ans. Mais sinon, en termes de comportement électoral, c'est assez similaire et il y a une belle prime pour les écologistes.
Pourquoi ? Ils n'y croient pas ? Enfin, je reste sur l'absence des jeunes dans les...
Ah, dans les urnes ?
Dans les urnes.
Alors, on est aussi sur un nouveau rapport à la politique. Hein, l'acte civique, l'acte d'aller mettre un bulletin dans une urne, va moins de soi pour ce public qui se mobilise ou se politise de manière différente. Hein, on a vu, par exemple, typiquement sur le climat, des jeunes lycéens défiler dans la rue, on voit aussi des mobilisations sur les réseaux sociaux, on voit également des jeunes s'impliquer dans des initiatives locales, mais de manière très ponctuelle, puis après ressortir, d'une manière un peu plus zapping. Donc c'est aussi un autre rapport au collectif qui s'exprime dans cette jeune génération et qui découle ou qui s'imprime aussi sur le rapport aux politiques.
Mais ça veut dire que pour eux, voter, ça ne veut plus dire grand-chose.
Alors, c'est moins sacralisé, manifestement, que pour les générations qui les ont précédées.
Après ce vote, la France est-elle... Alors, je reviens à l'archipel français, fait de nombreuses petites îles à géométrie variable. Après ce vote, la France est-elle encore plus fracturée ?
Oui, on peut le constater. On avait 34 listes qui briguaient les suffrages des Français. Alors, beaucoup n'ont pas récolté beaucoup de suffrages.
Il y en a 6 qui envoient des élus au Parlement.
Mais on a deux grosses formations politiques, le Rassemblement National et La République En Marche, qui font 45 à 46% des voix à deux. Et le reste est dispersé sur de très nombreuses listes. Donc, il y a à la fois cette fracturation, avec une opposition quasiment terme à terme entre En Marche et le Rassemblement National, qu'il s'agisse de la géographie, qu'il s'agisse des milieux sociaux. Les milieux populaires ont très fortement voté pour ceux qui sont allés voter pour le Rassemblement National, alors que les beaux quartiers, les catégories aisées ont massivement soutenu la liste du président. Donc on a cette opposition au sommet entre les entre deux France, et puis une kyrielle d'autres lignes de fracture qui ont nourri les autres formations politiques, avec un vieux clivage gauche-droite qui n'a pas dit son dernier mot, mais qui apparaît très très démonétisé, puisque les deux incarnations, le PS et les Républicains, font à deux 14 ou 15% des voix seulement.
Le clivage gauche-droite n'a pas dit son dernier mot. Vous nous dites ça par mesure de précaution ou parce que c'est une réalité observable, pardonnez-moi de...
Mais en fait, il continue d'exister. Les Français continuent de se reconnaître comme étant de gauche et de droite, mais ce n'est plus lui qui est le critère structurant, le clivage structurant de la vie politique française. Il y a un autre clivage.
Quel est-il exactement?
C'est celui qui oppose en France En Marche au Rassemblement National, ceux qui sont adeptes d'une adaptation à la mondialisation et ceux qui la craignent ou ceux qui en pâtissent. Et ce clivage-là, pour autant, n'est pas aussi puissant que n'était le clivage gauche-droite. Donc on est sur une multiplicité de clivages qui donne naissance à cet archipel. Et donc la lisibilité des choses est beaucoup plus compliquée aujourd'hui qu'hier.
Et là-dedans, le rapport à l'argent et le rapport à la culture ou à l'éducation jouent un rôle?
Alors bien évidemment, on a mentionné tout à l'heure la déclinaison des votes selon le niveau de revenu, mais également le niveau de diplôme. Et ça, c'est pas propre à la France. On l'a retrouvé au moment du Brexit dans le vote pour Donald Trump. On regardera ce qui s'est donné dans les autres pays européens. Aujourd'hui, on a une société qui est très structurée selon le niveau de diplôme. Et tout ça influe aussi sur les votes.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de lutte des classes qui continue de perdurer et qui est liée finalement directement aux revenus, c'est-à-dire à ce qui vous reste à la fin du mois pour vivre?
Alors, c'est une lutte des classes, mais il y a deux changements par rapport à avant. Le niveau de diplôme devient aussi important que le niveau de revenu dans la structuration des opinions et des votes, d'une part. Et d'autre part, ce clivage de classe qui existe et qui est persistant ne structure plus en dernière instance l'affrontement gauche-droite, mais l'affrontement entre RN et République En Marche.
Alors, je prends l'exemple des retraités, parce que ça peut paraître perturbant. Ils n'ont cessé d'avoir des rapports conflictuels avec le président de la République, qui a commencé d'abord par pas vraiment les câliner, et à l'arrivée, ils votent massivement pour lui. Comment vous m'expliquez ça?
Alors, on voit effectivement que les retraités, qui étaient le dernier grand bastion de la droite française, c'est ce qui avait permis à François Fillon de faire 20% des voix, a déserté en grande partie la droite, au profit d'Emmanuel Macron. Alors bien évidemment, il y a les épisodes fiscaux que vous rappeliez, mais il y a eu également la crise des Gilets jaunes, avec des attaques vis-à-vis des institutions, les forces de l'ordre qui ont été agressées, des centres-villes qui ont été saccagés, et cet électorat retraité aspire à la sécurité, aspire à l'ordre et à la tranquillité, et c'est aussi un élément qui a pesé dans le fait qu'une partie de cet électorat bascule du côté de la défense des institutions du pouvoir qu'a incarné Emmanuel Macron.
Je souhaite évidemment qu'on augmente ma retraite, mais je ne veux pas qu'on casse le pays pour autant.
En dernière instance, c'est ça.
Seules deux métropoles n'ont pas placé la liste La République en marche en tête. Ce sont Nice et Marseille. C'est le retour de l'opposition entre la France urbaine et la France rurale?
Alors, on a effectivement cette opposition entre ce qu'on a appelé la France des métropoles et la France périphérique. C'est très clair sur la carte. Un jeune élève qui devrait placer les villes, y arriverait sur la carte électorale, parce qu'on les voit très clairement se distinguer. Mais, comme vous le rappeliez, il y a aussi des spécificités régionales avec les villes du Sud qui votent quand même plus fortement pour le Rassemblement National que d'autres métropoles. On retrouve là aussi cette ligne de clivage entre les gens qui sont intégrés, qui bénéficient de la nouvelle donne économique. Ouais. J'habite dans une grande métropole où, on l'oublie souvent, j'habite dans des zones touristiques, les littoraux, les stations de ski. Et donc là, la situation est plutôt confortable pour moi. On n'est pas loin du plein emploi. Et puis, il y a ceux qui habitent à 20, 30, 40 kilomètres. Alors, soit des grandes villes, dont on parle souvent, mais aussi du littoral. Vous prenez la Bretagne, vous avez une opposition frappante entre le golfe du Morbihan et ce qui s'est passé à 30 ou 40 kilomètres dans l'intérieur des terres, où le prix des maisons n'est pas du tout le même, où les métiers ne sont pas les mêmes et où les perspectives d'avenir n'ont rien à voir.
J'ai une question pas facile à vous poser pour terminer. Du point de vue d'Emmanuel Macron, donc là je vous demande quasiment un conseil, c'est il faut qu'il pousse sur sa droite, ce qui visiblement lui a pour l'instant réussi, en tout cas en termes électoraux, pour limiter la casse, ou est-ce qu'il faut qu'il se retrouve une béquille à gauche, un peu plus logique? C'était quand même une partie de son programme.
Alors, il a
deux côtés.
tout à fait. Alors, la stratégie de démolition du pilier droit a fonctionné au-delà des espérances, hein, oui, puisque la droite est réduite aux aquets. Je pense qu'ils vont continuer à maintenir la pression de ce côté-là, parce que les marges de progression sont là. Mais en même temps, selon la formule consacrée, ce qu'il a fait aussi pendant la campagne, il regarde sur sa gauche, et notamment, pas forcément en direction du vieux Parti Socialiste, mais des écologistes, puisqu'on rappellera que 20% de son électorat a voté pour la liste de Yannick Jadot. Et donc c'est peut-être pour cela aussi qu'on va entendre parler d'écologie dans les propos gouvernementaux dans les semaines et les mois qui viennent.
Vous avez été parfaitement clair et la vie politique française reste passionnante. Merci beaucoup.
Merci Jérôme de votre Fourquet. Invitation.
Je rappelle que vous êtes le directeur du département opinion de l'IFOP et qu'on peut se reporter aussi à votre livre paru aux éditions du Seuil, L'archipel français. Dans un instant, l'essentiel de...